Les priorités santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Priorité santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce vendredi à nouveau pour aborder sans détour des questions pratiques au cœur de notre santé, au cœur de notre vie quotidienne. Des problèmes qui peuvent, à première vue, sembler sans gravité, mais qui, lorsqu'ils s'installent et se répètent, peuvent vraiment compliquer l'existence. Et c'est particulièrement vrai pour les troubles intestinaux, troubles du transit, qu'il s'agisse des ballonnements, de la constipation qui peuvent altérer la qualité de vie, provoquer des douleurs complexées, altérer l'estime de soi, inconfort, gêne, des questions banales et qui pourtant n'est pas toujours facile d'aborder en raison notamment des tabous liés à tout ce qui concerne la digestion. Alors c'est le moment d'oser en parler pour essayer de trouver des solutions, un soulagement, parce que des conseils simples peuvent parfois avoir de grands effets. Alimentation, hydratation, activité physique, comprendre ce qui se passe dans notre ventre, opérer certains changements, se débarrasser de mauvaises habitudes, comment améliorer son transit intestinal, quel est le rôle des fibres, pourquoi certaines boissons ou certaines préparations sont-elles déconseillées, autant de questions auxquelles un spécialiste va pouvoir vous répondre au cours de cette émission. Vos questions et des conseils, des pistes, des réponses, grâce à vous, professeur Daouda Dia, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur titulaire de la chaire d'hépato-gastro-entérologie à la faculté de médecine chaire Anta Diop à Dakar. Et vous êtes aussi adjoint au chef de service hépato-gastro, toujours à l'hôpital général du Grand Yoff à Dakar. Docteur Dia, on vous retrouve dans les studios en full day et moins d'un camp de RFI, toujours à Dakar, dont on remercie bien sûr toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Ce sujet des troubles du transit, évidemment, on pose les choses. Pour commencer, docteur Dia, on distingue bien ces troubles des maladies digestives sévères, puisqu'il va être essentiellement question au cours de l'émission d'inconfort, de douleurs bénignes, sans minimiser, bien sûr, la gêne provoquée par ces problèmes. Le sujet, ce ne sont donc ni les maladies graves comme des cancers, ni les atteintes chroniques comme les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, essentiel de distinguer les symptômes. Qu'est-ce qui relève des troubles du transit, on va dire, d'un côté, docteur Daouda Dia, qu'est-ce qui doit alerter, pousser à consulter en urgence?
Merci. En fait, quand on parle de troubles du transit seul, ce n'est pas spécifique. Ça appartient aux maladies bénignes comme aussi aux maladies sévères. Par contre, quand on dit troubles fonctionnels du transit intestinal, dans ce cas, on arrive à éliminer dans ce groupe les maladies sévères comme les cancers, comme les maladies inflammatoires chronique de l'intestin.
D'accord, donc, parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des troubles du transit qui peuvent être aussi des signaux d'alerte pour des maladies plus graves.
Beaucoup plus graves, oui.
Donc on s'intéresse, on l'a bien compris, pour cerner, pour définir notre sujet du jour, à ces troubles fonctionnels. Est-ce que c'est toujours simple d'ailleurs de faire, quand on parle de douleur, professeur Dia, la différence entre ces troubles et des douleurs aiguë, comment est-ce qu'on comprend finalement que les choses s'arrêtent à une petite crise, on va dire ponctuelle, et qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui s'installe dans la durée, dans la longueur?
Parce que généralement, les troubles fonctionnels du transit intestinal sont des troubles chroniques. L'individu arrive à s'accommoder et à ressentir ses symptômes de manière très, très, très longue. C'est différent le plus souvent d'une douleur d'installation aiguë. À chaque fois que c'est aigu et intense, il faut absolument voir s'il n'y a pas une organicité en dessus. Ça veut dire une maladie purement organique qui est en train d'évoluer.
On aura tout à l'heure des illustrations avec les questions des auditrices sur ces troubles du transit fonctionnel, on l'a dit, les plus fréquents. Et pour les soulager, on peut agir sur plusieurs plans. Les médicaments, ce n'est pas l'unique solution, c'est important de le dire.
Non, les médicaments représentent l'ultime, la dernière des solutions. Les premières solutions reposent sur les habitudes de vie, le mode de vie des individus. Ça veut dire généralement leur comportement en cours de journée et le type d'alimentation. Sur ces facteurs-là qu'il faut agir en premier lieu avant d'avoir un dernier recours, de faire appel aux médicaments.
Et justement, à ce sujet, il y a peut-être une mise en garde parce qu'on pense souvent, quand on a mal au ventre, quand ce n'est pas très grave, à l'automédication. Docteur Dia, qu'est-ce que vous en pensez ?
L'automédication, ce n'est pas la meilleure des choses à dire. Parce qu'avant de commencer à traiter, il faut au moins savoir. Quand on va vers un spécialiste qui explique, s'il est sûr que ce sont des troubles purement fonctionnels, après il peut expliquer au patient que de temps en temps, il peut y avoir recours à une automédication et il lui explique éventuellement les médicaments à prendre.
Alors, professeur Dia, on a bien compris une longue expérience en la matière. Est-ce qu'après toutes ces années à consulter, vous avez le sentiment en tant que médecin que beaucoup, là aujourd'hui on parle des femmes, mais beaucoup de monde finalement ne sait pas vraiment comment fonctionne l'appareil digestif, comment ça marche dans le ventre ?
Effectivement, beaucoup de gens, pour ne pas dire la grande majorité, l'écrasante majorité, ne comprend pas exactement le tube digestif et le fonctionnement du tube digestif. Bien sûr, ce n'est pas de son rôle, ce n'est pas une activité primordiale pour comprendre les mécanismes digestifs dans leur ensemble. Ça ne représente pas une priorité pour la grande population. Mais au moins, il pourrait y avoir une petite idée sur ces mécanismes de fonctionnement. Ça aiderait beaucoup à comprendre plusieurs symptômes.
À comprendre aussi, à lever certaines inquiétudes. On a Nema du Burkina Faso qui se demande si les gargouillements du ventre, certains parlent même de gargouillis, quand ils sont fréquents, est-ce que ça peut être le signe d'une maladie grave ? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Les gargouillements, normalement, ce sont des phénomènes normaux. Ce sont des phénomènes qui traduisent tout simplement l'activité motrice des intestins. Le passage du bol alimentaire au niveau de l'intestin provoque un gargouillement. Maintenant, il y a des gens chez qui le gargouillement s'entend et devient très fréquent et d'autres chez qui il est beaucoup plus discret. Mais un gargouillement en tant que tel ne représente pas une maladie. Maintenant, si ça s'entend et que ça devient très gênant pour l'individu et éventuellement son entourage avec un retentissement, dans ces cas, il faudrait voir s'il n'y a pas au niveau sous-jacent un déséquilibre dans le comportement alimentaire de l'individu d'abord. Mais ça ne fait pas appel en premier lieu à une maladie sévère.
Ça veut dire que ce n'est pas une urgence, mais finalement, Nema, la prochaine fois qu'elle va consulter son médecin, elle lui pose tout simplement la question. Alors tout de suite, des premiers témoignages dans notre émission. C'est le moment de notre palabre au féminin. Elles sont deux aujourd'hui au micro de Charlie Dupio, Fatoumata et Fifi. Elles ont toutes les deux 41 ans et elles ne se connaissaient pas avant de se livrer sur leurs problèmes.
Pour les troubles du transit, c'est quelque chose qui m'arrive fréquemment. Bon, je ne sais pas, peut-être que je supporte mal certains aliments et j'ai remarqué que si je mange quelque chose d'un peu plus gras, parfois j'ai du mal à digérer ou bien ça me fait des ballonnements. Et les ballonnements me font des sortes de gaz. Je peux rester au moins des fois 2 jours sans pouvoir aller au sel. Au niveau du ventre, ça fait gonfler le ventre et c'est vraiment désagréable, surtout quand on est constipé. Alors là, on a envie de mourir, quoi.
Oui, il y a des gens, des fois là, moi je demande comment est-ce que vous avez la fatigue quand vous allez, vous sortez directement. Moi je ne sors pas. Moi je dis toujours, je dois me concentrer.
Donc, c'est sûr. Pour que ça sorte.
Moi je me concentre. Moi c'est comme ça.
C'est horrible.
Il y a une semaine ou 2 semaines que je suis. Non, c'était le lundi ou le mardi dernier que je suis passée par là. Toute la journée, je me suis réveillée, j'ai dit non, mais je crois que ça va sortir, j'y vais.
Je suis avec.
Là, je négociais pas. Là, c'est comme si. Ah, Seigneur, je suis où?
Comme si tu as accouché.
Je suis allée. J'ai dit non, mais je vais prendre du thé chaud. Là, comme elle dit de prendre du thé chaud, je mets debout. Tu restais un moment. Là, j'étais là debout. Hein, j'attendais comme si j'attendais quelqu'un. Là, donc tu arrêtes de respirer, tu te concentres là, et puis tu. Alors non. Je conseille pas parce que là, vous êtes mal à l'aise.
C'est vrai. C'est grave, hein?
Et pour manger, là, même si vous avez faim, vous ne pouvez pas manger parce que là, ça doit sortir pour que vous vous mettez vraiment, vous soyez santé à l'aise.
Quand on est constipé, il n'y a rien qui passe. On n'a pas envie de manger. Tout ce qu'on a envie, c'est de boire quelque chose. Mais rajouter nos turbans. C'est rajouté sur la souffrance.
Vous sentez une faiblesse, vous vous sentez abattu, vous n'avez pas la force.
Moi, ça me fait la fièvre parfois, carrément. Ça me donne de la fièvre.
D'être constipée.
D'être constipée. Mais depuis, je commence à faire plus attention, à trier les choses que je mange, parce qu'il y a des choses, quand je prends, ça ne passe pas. Même si l'envie me vient, je ne prends pas, quoi, je laisse passer.
Je crois que c'est pareil avec moi aussi. Je ne suis pas du genre à tout manger. Parce que déjà, là, j'ai dit toujours, je respecte mon ventre. Nous, on a l'habitude de manger de l'intérieur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, les abats de viande. Là.
Ah oui, oui, les intestins et autres, là, les tripes, on appelle ça les tripes.
Surtout ça, ça ne va pas avec moi. Si j'ose prendre, j'ai des ballonnements. Et puis, le problème de constipation, ça, c'est mon affaire.
Et les chips aussi, les pommes de terre, les féculents, tout ça. Voilà, parce que moi, j'ai remarqué quand je mange de la pomme de terre cuite, même les frites... Des fois, j'ai du mal après aller au sel parce que ça me constipe.
Moi, chez nous, il y a le riz, il y a aussi la chikwangue. Chez les Camerounais, on appelle ça bâton. C'est fait avec le manioc, le racine de manioc, là, voilà. Les riz et tout, les bananes plantées aussi.
Ah oui, pareil. En général, quand je consomme 2 à 3 jours successifs de riz, là, j'ai du mal à digérer. Dès que je touche, c'est constipation.
Non. Mais ça dépend, je trouve que ça dépend d'une personne à une autre. Parce qu'avec d'autres personnes, ça passe. Mm-hmm. Oui, avec d'autres personnes. Parce que non, on peut manger, on peut être là, on peut manger la même chose. Avec vous, ça va passer, avec moi, ça ne va pas passer.
Exactement, ça m'est arrivé l'autre jour. Un collègue à moi, je lui ai proposé une banane. Il m'a dit, jamais, je ne mange jamais de banane, moi. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, ça me constipe grave. En plus, un homme. Pour moi, c'était problème de constipation, c'était que nous, les femmes, ça concernait. Mais par contre, moi, si je mange la banane, ça ne me constipe pas.
Déjà, la goyave, le fruit, si je peux dire. Moi, je ne peux pas manger la goyave, parce que je pense que ça me constipe.
Et puis, le goyave, ça soigne.
Moi, ça me constipe.
Oui, ça fait mal.
Et puis, y a mon mari qui vient, qui dit, je t'ai dit, toi, tous les jours de ta vie, tu dois prendre le jus d'orange.
Le miracle, jus d'orange.
Jus d'orange, là.
Le jour de journée, tu dois le boire, ça.
Tu prends le jus d'orange, comme tu n'aimes pas trop de fruits, je n'aime pas des fruits comme des papayes, des fruits comme ça, des kakis, je n'aime pas les odeurs, l'odeur là, je n'aime pas. Tu prends le jus, bois de l'eau, beaucoup d'eau pendant la journée. L'eau, ça tue personne.
Les tisanes, les vétivers. Là, c'est, je mets avec citron, feuilles de menthe, je fais chauffer. Et après avoir fini de manger, dès que je bois, je digère. Et dès que tu bois, à longueur de journée, il faut boire de l'eau. Et tu vas voir, tu vas être délivré, quoi. Constipation, ça va être une vieille histoire.
Alors, des propos recueillis par Charlie Dupio. Votre réaction, vous êtes à l'écoute, hein, professeur Daouda Dia à Dakar. Ce qu'on entend, c'est d'abord l'écart entre, on va dire, les conséquences graves pour la santé, le retentissement, le vécu de ces femmes. Parce que même si elles rient, on sent que ce n'est pas marrant tous les jours, hein.
Effectivement, mais le fait déjà qu'elle rit, c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire que, un, ce sont des histoires chroniques qui se passent depuis très longtemps. Généralement, les gens arrivent à s'habituer à cet état et à en rire. Mais ensuite, il n'y a pas de retentissement grand, pour ne pas dire de trop grand retentissement sur leur qualité de vie, entre guillemets. C'est rassurant, ça veut dire que généralement, ça oriente vers effectivement des troubles fonctionnels intestinaux.
Et d'ailleurs, elles ont des remèdes maison, elles parlent de ces tisanes. Et du côté de l'hydratation, boire beaucoup plus d'eau, qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai dit que pour les conseils sur l'hydratation, ce sont de bons conseils. Pour les patients, en tout cas, qui souffrent beaucoup plus de constipation, il leur est conseillé de boire beaucoup d'eau, de préférence au cours du manger, au cours des repas. Ça aide l'organisme à pouvoir éventuellement mieux éliminer les résidus au niveau du tube digestif. Par contre, pour ce qui est des tisanes, il y en a énormément. Des tisanes, on ne sait pas, c'est assez difficile pour un médecin de pouvoir en parler sans connaître la véritable composition. On ne peut que se baser sur ces remèdes de maison. Parfois, si ça arrive à arranger l'individu, effectivement, il peut de temps en temps céder de ces tisanes-là, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus tant qu'on ne connaît pas la véritable composition.
Et il ne faut pas en abuser, parce que dans certains cas, quand on ne sait pas justement ce qu'il y a dans la tisane, si on en boit en grande quantité, cela peut avoir un retentissement sur la santé des reins.
Oui, oui, tout dépend de la composition et de la manière de prendre ces tisanes, effectivement. C'est pour cela qu'on ne peut pas en parler beaucoup.
Et généraliser. Tout de suite, on va prendre une première auditrice en ligne.
Bobo Dioulasso, 99.4 FM.
Virginie, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour docteur.
Alors Virginie, vous avez 44 ans, on a entendu Bobo Dioulasso en ligne du Burkina Faso. Vous, Virginie, vos problèmes de transit, ça remonte à quand?
Depuis 2020.
Avec quels symptômes précisément?
Symptômes de constipation, ballonnement. Ça persistait.
Ça persiste, ça dure depuis deux ans. Vous avez consulté à ce sujet?
Oui, j'ai consulté. Je suis allée voir un généraliste docteur qui m'a proposé de faire une échographie.
Oui.
Je l'ai faite immédiatement. Et l'échographie a révélé que j'ai beaucoup de gaz dans les intestins. Voilà, il m'a prescrit des produits, des médicaments que j'ai fait. Et après le traitement, ça a recommencé encore.
Ça veut dire que vous avez pris ces médicaments. Dès que vous avez arrêté, vous êtes arrivé au bout de l'ordonnance, les problèmes sont revenus.
Oui, c'est revenu.
Est-ce qu'il vous a donné, ce médecin généraliste, des conseils en termes d'alimentation?
Il m'a demandé de boire beaucoup d'eau.
Oui.
Et que je n'arrive pas du tout à faire. Je n'arrive pas à boire assez d'eau.
Pourquoi?
Je n'ai pas l'envie. Je n'ai pas l'envie de boire.
C'est plus facile pour vous de prendre des médicaments que de boire de l'eau?
Pas du tout. J'ai horreur même de prendre les médicaments.
Mais en même temps, si votre confort digestif est là, et si le médecin vous dit buvez plus d'eau, vous n'arrivez pas, vous obéissez pas. Vous n'êtes pas une patiente, on va dire, observante.
Je me force, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi.
Bon, bah écoutez.
Non, je fais de mon mieux en tout cas pour...
Vous faites de votre mieux. Autre question, est-ce que ce médecin vous a dit de passer d'autres examens de santé?
Non, il ne m'a pas demandé. Je suis allée voir un autre,
oui,
un professeur, lui, qui m'a demandé maintenant. Il a doublé la prise de médicaments,
mm-hmm,
et il m'a demandé de faire une coloscopie.
Et vous en êtes où par rapport à cet examen? Voilà. Cet examen invasif, hein, on introduit dans le tube digestif une caméra pour voir comment... ça se passe au niveau de la digestion. Et si ce tube digestif, notamment le côlon, est en bon état, vous l'avez passé cet examen, Virginie?
Je n'ai pas passé de peur. Je n'ai pas passé.
Vous avez peur de
l'examen.
Quoi? De peur de quoi?
Peur de la coloscopie, comment ça se passe? Est-ce que je me pose beaucoup de questions là-dessus.
Donc, Virginie, cette auditrice qui doit passer une coloscopie et qui s'en inquiète, professeur Daouda Dia, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour la rassurer?
Pour la rassurer vis-à-vis de la coloscopie, c'est pour dire que l'examen, effectivement, c'est un examen invasif. Invasif, ça veut dire qu'il peut y avoir une agression de l'organisme. Mais cette agression et ses conséquences sont relativement rares. Ça survient dans moins de 1% des cas. C'est possible, mais c'est rare. De toute façon, le praticien doit pouvoir lui expliquer son rôle. Il a eu à faire ça, mais ensuite, essayer de la rassurer. La rassurer, c'est lui expliquer calmement ce qu'on attend de cet examen. Comment ensuite cet examen se passe? Quels sont les éventuels risques qui sont tout à fait minimes, mais possibles? C'est pour dire que c'est une longue explication à lui fournir, tout simplement.
Le médecin doit faire preuve de transparence. Mais on imagine, Virginie, votre question aujourd'hui par rapport à tout ce que vous nous avez décrit auparavant, c'est bien de savoir comment vous débarrasser de la constipation, c'est bien ça?
Exactement. Et j'ai remarqué aussi que quand je pars au sel, ça fait terriblement mal. Mmh. Et il y a un bouton même qui est apparu au niveau de l'anus. Mmh. Donc tout ça, je ne sais pas, c'est dû à quoi, à la constipation ou quoi, je ne sais pas.
Docteur Daouda Dia, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Virginie par rapport à cette douleur, à ces inquiétudes et puis à cette situation qui dure depuis trop longtemps?
Il y a effectivement, elle a 44 ans, il y a une situation de constipation, de ballonnement, de gêne qui dure depuis très longtemps. Elle tend à s'habituer, entre guillemets, à ça. Mais ensuite, il y a de nouveaux symptômes qui apparaissent. Ce qu'elle explique, ce qu'elle appelle bouton au niveau de l'anus. Parce que le terme bouton, c'est un terme générique.
Mm-hmm.
Il faudrait savoir, voir, pour dire exactement ça correspond à quoi. On ne va pas s'aventurer à dire qu'il peut s'agir de thrombose hémorroïdaire ou bien il peut s'agir d'autres choses, fissures ou autres. Il y a vraiment beaucoup de lésions proctologiques qui peuvent s'installer dans ce contexte-là. La meilleure des choses à faire, c'est de consulter. Même un généraliste devrait pouvoir examiner correctement, ensuite faire une anuscopie. Examen très simple de 5 à 10 cm à mettre dans l'anus, ça permet de voir et d'avoir une idée de ce qui se passe en dedans.
Eh bien donc, ce conseil à Virginie, on l'a bien compris avec le professeur Daouda Dia, c'est d'aller consulter, retourner justement poser toutes ces questions à un médecin. Et on vous remercie infiniment, hein, Virginie, pour votre appel, puisque double merci, puisque vous êtes la première programmatrice de Priorité Santé aujourd'hui. Et votre choix, avant de retrouver une autre question en ligne pour éclairer sur ces troubles fonctionnels du transit intestinal, eh bien c'est cette chanson Oma, interprétée par Greg. Et on se retrouve juste après.
Ramanda benyo wakatana katae Mimi tia tobo Zuzu ya mpire Tiketi ya lengire Mimi tia tobo Pansansa Tiketi ya namsugo Ramanda benya wakatana katae Mpusi la baraka Ibala kusko lingra inga Mpusi la baraka Ibala kusko namska inga Kugawe La lingere sana yine atuwaduo.
Émission Questions de femmes, priorité santé. Aujourd'hui, nous parlons des troubles fonctionnels du transit intestinal. C'est toujours avec notre invité, le professeur Daouda Dia, adjoint au chef du service hépato-gastro-entérologie à l'hôpital général du Grand Yoff de Dakar. Et vous vous trouvez professeur dans les studios en full day et mandacant de RFI. On prend maintenant la direction du Cameroun, de Yaoundé, avec en ligne Camden. Camden, bonjour.
Bonjour.
Alors Camden, vous avez 42 ans, expliquez-nous la cause de votre appel.
J'appelle parce que je souffre de flatulence depuis 7 ans. J'ai accouché d'un garçon qui était très gros, 5,2 kg. Je l'ai accouché par voie basse dans une clinique privée. Et 3 jours après l'accouchement, je ne contrôlais plus presque rien en bas. Je faisais les selles sans contrôler les urines et les pet-pet aussi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Mmh. Et le gynécologue m'a dit que c'est parce que l'enfant était très gros et il a dû bousculer certaines choses en bas. Avec le temps, ça va se résoudre.
Est-ce que justement, avec les mois qui sont passés, Camden, cette incontinence que vous nous avez décrite, cette incontinence s'est arrêtée?
Oui, ça s'est arrêté, mais les flatulences sont restées jusqu'aujourd'hui.
C'est gênant. Et vous prenez des remèdes contre ces problèmes?
Bon, pour le moment, je prends du charbon pour le ballonnement. Mais j'ai demandé conseil à un pharmacien. En dehors de ça, je ne prends rien d'autre.
Un pharmacien, vous n'êtes pas, par exemple, allé voir un spécialiste, un gastro-entérologue?
Non, je n'ai jamais consulté un gastro-entérologue à ce sujet.
Pourtant, on vous entend, ça vous embête, ça vous gêne au quotidien. Pourquoi ne pas aller en parler à un médecin? Est-ce que vous êtes même gêné d'en parler à un médecin?
Bon, c'est vrai que je suis un peu gênée d'en parler. parce que c'est un truc un peu rare et mourir comme ça, dit un médecin, que par moment, à longueur de journée, j'ai des flatulences. Ça me gêne de le faire au téléphone, comme ça, je suis plus à l'aise.
Plus anonyme, on va dire. Il n'y a pas de public qui vous voit, personne ne vous regarde les yeux dans les yeux. C'est moins gênant. Professeur Daoudadia, on comprend bien qu'Amden, qui est gênée au quotidien, elle travaille, ça perturbe sa vie professionnelle, sa vie privée, sa vie quotidienne. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette auditrice ?
C'est extrêmement gênant ce qu'elle décrit, parce que ce qui est survenu juste après sa grossesse, effectivement, son accouchement d'un gros enfant par voie basse, ça peut être source d'installation de ce qu'on appelle des troubles de la statique pelvienne. Le gynécologue a éventuellement raison en lui disant que, en termes grossiers, qu'il y a eu bousculement de certains organes. Mais elle dit que ça s'est amélioré. Actuellement, ce qui persiste, c'est tout simplement une incontinence gazeuse. L'incontinence des selles s'est arrêtée. C'est qu'elle perd des gaz sans pouvoir les contrôler du tout.
Est-ce qu'il y a un remède pour cela, professeur ?
Avant de parler de remède, il faut savoir se faire examiner par un spécialiste. D'abord, voir au niveau du sphincter anal. Est-ce que les muscles du sphincter anal ont toujours leur force de contraction? Parce que c'est ce sphincter anal qui contrôle les gaz et les selles. Il faut savoir se faire examiner, bénéficier d'un toucher rectal et éventuellement d'un examen proctologique complet. Parfois, il y a d'autres types d'exploration paracliniques qu'on est obligé de faire pour voir la puissance, la force des muscles du pelvis, pour pouvoir aider ce sphincter à garder la continence gazeuse.
Alors le problème, c'est la gêne. Camden, est-ce que vous allez réussir à aller voir un spécialiste? Parce qu'il faut bien se dire que c'est vraiment son domaine professionnel. Il ne va pas du tout vous juger. Il va toujours trouver ça tout à fait naturel que vous veniez le voir ou la voir, cette spécialiste, si c'est une femme, pour cette cause, puisque c'est justement là-dessus qu'elle travaille au quotidien. Est-ce que vous allez arriver à faire cette démarche?
Bon, c'est vrai que jusqu'à la fin d'année, c'était encore difficile pour moi. Mais pour l'année 2022, j'ai décidé de prendre, de m'occuper de ce problème.
C'est votre résolution, hein, vous occuper de votre santé pour retrouver le confort au quotidien.
Oui, c'est ma résolution pour cette nouvelle année. Je suis prête à le faire, mais je souhaiterais que ce soit une femme qui me consulte.
Eh bien, vous allez à l'hôpital et puis vous le demandez aussi. Ça peut tout à fait se faire et ça peut se comprendre quand on est pudique. Ça, c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver et qui sont bien naturelles. En tout cas, bravo pour cette résolution, comme Den. On vous remercie, on vous dit très très bonne journée à Yaoundé et on part pour le Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Auditrice en ligne, mais aussi des messages sur le répondeur de Priorité Santé. C'est ce qu'a fait Belvani, hein, qui nous suit à partir du Congo. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Belvani, j'ai 33 ans et je vous parle depuis le Congo Brazzaville. J'ai un problème, je fais rarement des selles. Si c'est trop, c'est 3 fois par semaine. Et je n'ai jamais ressenti un mal qui m'inquiète ou qui me fait dire que je suis constipée. Par contre, quand je suis en état de stress, je vais tout de suite aux selles. Et les 3 fois par semaine, c'est souvent quand je suis en état de stress. Donc, j'aimerais savoir si je suis malade ou bien si c'est mon organisme qui est naturellement programmé de cette façon. Merci beaucoup.
Professeur Daoudadia, on a écouté ce message de Belvani qui établit un lien entre son transit intestinal et des situations de stress avec, comme elle l'explique, 3 selles par semaine. Est-ce que dans son cas, on peut parler de constipation ?
Constipation, c'est relatif, même au niveau de la définition. Parce que réellement, sont considérés comme constipés ceux qui se plaignent de constipation. Un individu qui se plaint de constipation est considéré comme constipé. Pour dire que la définition n'est pas univoque. Donc, si elle considère qu'elle est constipée, il faut qu'elle s'assoie avec un médecin pour discuter. Et à partir des éléments objectifs, lui dire qu'il s'agit d'une véritable constipation, ou bien si elle a toujours vécu comme ça, c'est son rythme tout à fait normal. Même elle l'a reconnu. Mmh. Elle dit qu'elle ne se considère pas comme malade. Mmh. C'est seulement certaines situations de stress qui la gênent et l'amènent à aller à la selle de manière plus ou moins immédiate. Elle arrive à identifier ce qui la perturbe.
Professeur Daoudadia, c'est aussi quelque chose que vous constatez, vous, en consultation, et de par votre expérience et vos apprentissages, ce lien entre stress et transit intestinal?
Il peut exister, mais ça ne dépasse pas grossièrement 10-15% des situations. Mais quand même, des situations de stress aiguë peuvent entraîner une perturbation du transit intestinal. Mais de manière chronique comme ça, pour toute une vie, plus de 7 ans, ce n'est plus un stress. C'est une situation stabilisée.
Donc encore une fois, le conseil, c'est que cette auditrice Belvani aille consulter pour un petit peu faire la part des choses avec un agent de santé, avec un médecin. On va maintenant prendre en ligne d'Abidjan Karine. Karine, bonjour.
Bonjour.
On va prendre des nouvelles de votre santé à vous. Karine, vous avez 33 ans, vous avez une petite fille de 2 ans et vous avez le sentiment qu'après cette naissance, eh bien, votre transit s'est modifié. Qu'est-ce que vous avez constaté?
Voilà. Alors moi, dans mon cas, depuis que j'ai accouché, à chaque fois que je dois passer les menstrues, j'ai pas mal, j'ai pas de douleur. Ce que j'observe, c'est que mon transit il est vraiment plus léger. Ça veut dire que je peux faire des diarrhées, des un jour à deux jours, mais la toute dernière fois là, c'était carrément pendant une semaine, ce qui m'a conduit à me faire consulter. Et par la suite, ils m'ont demandé de faire des analyses parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas normal que je fasse que j'ai un conduit assez léger jusqu'à une semaine.
Alors, je vais résumer, Karine, excusez-moi de vous interrompre parce que la qualité de la ligne n'est pas vraiment excellente. Ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'au moment de vos règles, hein, cette période de votre cycle menstruel, vous aviez des diarrhées, ça a duré jusqu'à une semaine et que, justement, vous êtes allé consulter pour cela. Est-ce qu'on vous a donné un traitement?
Oui, avant de me donner un traitement, ils ont d'abord voulu que je fasse des analyses.
Oui.
Avant de me donner un traitement. Mais moi, je n'ai pas respecté au fait. Je n'ai pas fait d'analyse, mais au moins les premières recommandations qui m'avaient été données par le médecin, je les ai suivies. Bon, là, je crois que j'ai pris en plus d'un antidiarrhéique qu'on a changé, pas celui que j'avais l'habitude de prendre. Il m'a donné un antibiotique que j'ai dû rajouter. Et au bout de 2 jours, ça s'est stabilisé. Cette fois-ci, encore comme mon cycle menstruel a repris et que j'ai passé ma menstrue, je pense que j'ai fait une petite diarrhée d'un jour, juste ça, pour signaler que lui, c'était là. Mais par la suite, tout est rentré dans l'ordre.
Tout est rentré dans l'ordre. Excusez-moi de vous interrompre, Karine. C'était quoi les analyses qu'on vous a demandé de faire et que vous n'avez pas donc suivi ce conseil du médecin? C'était quoi comme analyse?
Voilà. Au fait, je crois qu'on m'avait demandé de faire des analyses durées.
L'urée.
Voilà, des termes scientifiques. Il y avait l'urée à faire. Quelques analyses encore en plus. Je n'ai pas respecté.
Pourquoi? Pour des questions financières ou parce que vous aviez peur des résultats?
Non, pas peur des résultats. En fait, il y avait un manque de temps.
Ça fait combien de temps qu'on vous a demandé de passer cet examen de santé?
Bon, ça va faire un mois.
Un mois. Et depuis, vous n'avez pas trouvé le temps de le faire?
Non, je ne l'ai pas fait. Bon, comme tout est stabilisé par la suite, cette fois-ci, j'ai voulu observer encore, après mes menstrues, que j'allais encore faire des diarrhées, une diarrhée assez longue.
Ça s'est passé comment?
Cette fois-ci, j'ai juste fait un jour, j'ai fait la diarrhée simple, mais juste un jour, et par la suite, le lendemain, c'était stabilisé. J'ai pris un anti-diarrhée, le reste de ce qu'on m'avait prescrit auparavant. Cette fois-ci, c'est rentré dans l'ordre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, à chaque fois que je dois passer mes menstrues, il y a une diarrhée qui doit.
Professeur Dia, cette modification du transit au moment du cycle menstruel, justement, des règles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des éléments d'explication?
L'explication, effectivement, elle est relativement évidente. Elle a remarqué que c'est cyclique. Ça revient à chaque fois que ces menstrues vont s'installer, les symptômes reviennent. Ça entre dans le cadre d'un syndrome prémenstruel. Ce sont les modifications hormonales du cycle génital qui sont en train d'entraîner ces modifications, ces symptômes au niveau du tube digestif. Le meilleur des conseils, c'est d'abord de voir un gynécologue. Voir est-ce que ces modifications hormonales ne sont pas excessives chez elle. Une fois que ce gynécologue a vu et a jugé qu'il n'y a pas de problème hormonal, dans ce cas, le gastro peut éventuellement intervenir. Mais c'est d'abord une relation directe avec la modification hormonale.
Donc, consulter un gynécologue. Karine, vous aviez aussi une question par rapport à un aliment que vous consommez souvent, une épice. Il s'agit du clou de girofle. C'est quoi cette question?
Voilà, en fait, je voulais savoir si le clou de girofle était peut-être à l'origine, on va dire, de la modification de mes hormones. Je dois me
vous consommez du clou de girofle sous quelle forme?
Naturellement, ça veut dire en poudre.
Poudre.
Je consomme mes cuisses en poudre.
Pourquoi vous mettez du clou de girofle?
Déjà parce que, de façon gynécologique, c'est bon pour la femme. Bon. Parce que moi, quand j'en mange un peu, c'est pour, surtout pour l'haleine. Parce que ça soigne la mauvaise haleine. Et tout ça.
D'accord.
Pas que j'ai la mauvaise haleine, mais en fait, c'est pour combattre cela.
Alors, en prévention, pour la santé de la femme, je l'ignore. Je ne sais pas si le professeur Dia le sait. J'en avais jamais entendu parler, hein, pour la santé des femmes, je ne sais pas. Pour l'haleine, c'est connu, c'est un remède assez ancien, notamment pour les douleurs dentaires également, qui est utilisé depuis la nuit des temps, c'est clou de girofle. En tout cas, est-ce que ça peut jouer sur le transit intestinal? Là, peut-être, vous allez pouvoir nous répondre, professeur Dia. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, ça dépend de la quantité qu'elle en prend.
C'est ça. C'est toujours la même chose.
Parce que si elle consomme de manière quotidienne, là, c'est forcément, non seulement il y aura des symptômes digestifs, mais il peut y avoir des symptômes au niveau d'autres viscères. Hein. Vraiment, il faut.
Donc ça veut dire, c'est pas comme d'habitude, on le dit, c'est pas parce que c'est un produit naturel qu'on peut en consommer à tort et à travers. Il faut être modéré, y compris quand ce sont des épices, y compris quand ce sont des tisanes. Il faut y aller doucement et pas forcément tous les jours, parce qu'à la longue, ça peut avoir un effet sur le métabolisme.
Forcément, forcément.
Voilà, Karine. Donc, ce conseil, peut-être le clou de girofle, on peut-être passer à une fois par semaine. Peut-être que ça suffit, non?
Deux fois tout au plus dans la semaine, ça devrait aller.
Une ou deux fois par semaine, c'est le conseil du professeur Dia. On vous remercie beaucoup, Karine. Très bonne journée à vous. Une autre auditrice en ligne d'Abidjan, c'est vous, Aïcha. Bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous aussi, vous vous plaignez de ballonnements associés à de la constipation. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme détail au professeur Dia, qui est à votre écoute, au sujet de ses problèmes digestifs?
Alors, merci. Concernant mes problèmes digestifs, effectivement, je souffre fréquemment de ballonnements et de constipation. Et je peux passer 3 à 4 jours sans faire de sel. Donc, j'ai commencé à prendre régulièrement des laxatifs pour pouvoir me soulager. Mais j'ai constaté depuis quelque temps que quand je ne prends pas de laxatifs, j'ai vraiment du mal à aller à la selle.
Ces laxatifs, est-ce que c'est un médecin qui vous les a prescrits ou c'est de l'automédication?
J'avais eu déjà une prescription médicale, mais finalement, après, je me suis rabattue sur des tisanes qui sont vendues en pharmacie. Donc ça, c'est vraiment de l'automédication.
Quel type de tisane? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit?
D'accord, donc c'est un thé qui s'appelle Catherine. Mm-hmm. Voilà que j'utilise une, deux fois par semaine quand j'en ressens le besoin.
Du côté de l'alimentation, est-ce que vous avez apporté des modifications pour essayer de réguler votre transit?
Oui, au niveau de l'alimentation, il faut dire que je ne consomme pas beaucoup de fruits. J'essaie d'en consommer un peu plus, mais surtout, je ne bois pas assez d'eau. Mmh. Donc, j'ai vraiment du mal à boire même 1,5 litre par jour. Donc, j'essaie depuis quelque temps de le faire, mais j'avoue que c'est assez difficile.
Et en termes d'espacement des repas, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose?
Pour l'espacement des repas, justement, à cause des problèmes digestifs, j'ai pris l'habitude de sauter le repas du soir parce que quand je mange le soir, j'avais des difficultés à dormir parce que je ne digère pas du tout. Je passe toute la journée à rôter et surtout le matin et je n'ai pas du tout la sensation d'avoir digéré.
Hey Aïcha, excusez-moi, est-ce que vous avez une question particulière à poser par rapport à un aliment qui, justement, vous interroge?
Oui. Je consomme beaucoup de riz et beaucoup de pain. Et donc, depuis quelque temps, j'ai remarqué que ça me semble de plus en plus lourd à digérer. Donc, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'on peut brusquement devenir allergique ou intolérant à un certain aliment, ou comment il faut s'y prendre pour savoir si on est intolérant et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce témoignage d'Aïcha, professeur Daouda Dia. Déjà, j'aimerais qu'on parle du recours à des laxatifs sans avoir consulté. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense que pas mal de femmes qui nous écoutent sont dans le même cas qu'Aïcha, c'est-à-dire que quand elles ne vont pas à la selle suffisamment souvent selon elles, quand elles se sentent mal, un petit peu ballonnées, constipées, elles prennent des laxatifs. Vous en pensez quoi, vous ?
En fait, il y a des laxatifs, certains laxatifs très légers qui entrent dans le cadre des produits conseils. Ça veut dire qu'un pharmacien peut, après avoir écouté un patient, lui conseiller certains types de laxatifs qui sont des laxatifs doux. Mais le revers, c'est qu'à chaque fois que les symptômes persistent au-delà d'un mois, l'idéal, c'est d'aller consulter, mais pas de continuer dans l'automédication. Dans ce cas, il peut y avoir même certains laxatifs qui sont capables à la longue de créer ce qu'on appelle la maladie des laxatifs, une réaction du côlon et l'apparition d'autres types de symptômes, pour dire les dangers de l'automédication persistante.
C'est une chose à éviter. L'autre question importante qu'a posée Aïcha, elle dit qu'elle consomme pas mal de céréales, notamment du riz, et elle se demande si elle ne serait pas devenue allergique ou intolérante au riz. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Les symptômes qu'elle présente principalement sont un ballonnement et une constipation. Si on note qu'elle consomme en plus beaucoup de riz et de pain, mais ce sont des aliments qui accentuent la constipation et forcément le ballonnement.
Rien à voir avec allergie, rien à voir.
C'est comme si c'était elle qui entretenait ses propres symptômes. Quant à parler d'allergie, c'est vraiment autre chose.
C'est autre chose. Par contre,
on ne peut pas, dans ce contexte,
parler d'allergie. Par contre, Aïcha l'a dit tout à l'heure, une autre auditrice avant elle avait témoigné de la même chose. Il s'agissait du fait qu'elles avaient du mal à boire de l'eau. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditrices, à ces femmes qui ont des problèmes, qui se sentent ballonnées? Elles ont en fait la solution dans la bouteille à côté d'elles, peut-être au réfrigérateur, et elles ne tendent pas la main vers cette bouteille pour boire des verres d'eau qui pourraient leur faire tellement de bien. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour essayer de boire plus facilement?
En fait, c'est des choses purement individuelles. Elles ne veulent pas, elles n'arrivent pas à boire beaucoup d'eau. Mais dans ce cas, l'eau, elle peut être remplacée par plusieurs autres types de boissons. Toutes les boissons sont, entre guillemets, de l'eau. Il y a plusieurs jus naturels ou autres pourvu. Mais de toute façon, l'organisme prendra ce dont il a besoin en eau, dans les boissons comme dans les aliments que les gens sont en train de prendre de manière quotidienne.
Même s'il faut faire attention à ne pas avaler des boissons trop sucrées, parce que là, on risque d'avoir d'autres problèmes de santé.
Les sodas et autres, là, il faut avoir l'habitude d'éviter.
Éviter absolument. Donc d'autres boissons, surtout des boissons gazeuses quand on souffre déjà de ballonnement. Voilà pour tous ces conseils. On remercie beaucoup Aïcha et excellente journée à vous à Abidjan.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Une dernière auditrice maintenant, une dernière auditrice qui est en ligne de la République démocratique du Congo. C'est vous, Béatrice, bonjour.
Bonjour.
Et vous aussi, Béatrice, vous avez constaté du changement du côté de votre transit intestinal après une naissance, après un enfant. Cela remonte à quand ?
Bon, cela remonte il y a à peine 5 mois parce que le bébé a 5 mois et 2 semaines.
Et cet accouchement, il s'est passé par voie basse. Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers ?
Oui, par voie basse, j'ai une déchirure du col utérus.
Donc, un incident assez grave au cours de cet accouchement. Est-ce que vous avez encore des douleurs près de 5 mois plus tard ?
Non, pas tellement, mais sauf qu'il y a eu un changement lorsque je fais mes selles. Le fait de pousser, il y a un peu de douleur.
Au moment de pousser, quand vous allez aux toilettes, est-ce que vous avez consulté Béatrice pour ces problèmes ?
Bon, j'ai dû tenter, mais jusque-là, je n'ai pas parvenu à voir le médecin.
Vous n'êtes pas allée voir un médecin, pourquoi ?
En fait, je suis allée, mais j'ai attendu tout au bout des 5 heures. Ça m'a découragée, je suis rentrée à la maison.
D'autant plus que j'imagine qu'avec le petit bébé, vous étiez avec ce bébé dans la salle d'attente et c'était très difficile d'attendre, c'est pour ça.
Oui, c'est pour cela que j'ai été obligée de rentrer à la maison.
Et du coup, vous n'êtes pas allée poser la question directement à un médecin. Alors peut-être que cette question, même si bien sûr, ça n'épargne pas l'effort d'aller consulter, parce que c'est toujours essentiel d'être en tête à tête avec un professionnel de santé, on va pouvoir déjà, on va dire en quelque sorte, défricher le terrain avec le professeur Daouda Dia, Béatrice qui a accouché au mois d'août. Il y a eu la cicatrisation donc de cette rupture au niveau de l'utérus. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil à cette auditrice de Kinshasa pour avoir tout simplement moins mal quand elle va aux toilettes ?
Ce qu'on peut conseiller, c'est qu'il y a déjà eu effectivement un traumatisme au niveau du pelvis. cette déchirure du col de l'utérus, forcément, il y a eu d'autres traumatismes des organes du voisinage. Ça peut entrer dans ce contexte-là et être source de troubles de la statique pelvienne. Mais ensuite, elle a des douleurs à la défécation. La douleur, c'est un symptôme tout à fait, un signe tout à fait anormal et qui devrait forcément nécessiter un examen proctologique. L'examen proctologique, c'est l'examen du périnée, du canal anal et éventuellement du rectum par un médecin. Un médecin généraliste a l'obligation de pouvoir faire cet examen proctologique-là. Ça permet de résoudre beaucoup de choses parce que les lésions proctologiques, elles sont relativement évidentes. Ces lésions pourraient expliquer la douleur quand elles poussent parce que le fait de pousser aussi est source de fissures anales et éventuellement de tuméfaction de procédance hémorroïdaire.
Ce conseil, oui, pour Béatrice. Béatrice, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez avoir le courage d'y aller voir ce médecin pour faire cet examen qui peut être un petit peu gênant, mais par contre, qui peut vraiment vous soulager?
Non, pour moi, je ne trouve pas ça gênant.
Eh ben, c'est très bien de l'entendre, parce que beaucoup de gens le pensent, mais c'est bien de dire aussi, en même temps, quand on a eu un bébé, on n'est plus à ça près. Hein. Vous avez eu 4 enfants, donc là, on va dire que c'est beaucoup moins compliqué pour vous. Et d'aller voir justement un médecin qui va vraiment, vraiment pouvoir vous soulager.
Oui, c'est possible. Je vais y faire. J'irai même la semaine prochaine, je le ferai.
Eh ben, c'est très bien. On vous remercie pour votre appel, votre témoignage. Et bon courage à vous, hein, Béatrice. J'espère que ça va un petit peu s'arranger vos problèmes. En tout cas, on vous le souhaite de tout cœur. Et on vous remercie parce que c'est avec votre choix musical que nous allons nous séparer et dire au revoir aussi à notre invité, au professeur Daouda Dia, qui a été non seulement patient, mais aussi très efficace dans ses réponses. Merci d'avoir éclairé nos auditrices sur ces questions pas toujours évidentes à poser. Merci beaucoup, professeur.
Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions.
On dit aussi merci à la rédaction Mandinkan et Full Day de Dakar pour son accueil. Le choix de Béatrice, hein, ça va nous ramener quelques dizaines d'années en arrière avec le groupe ABBA et son inoubliable Mamma Mia. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, c'est tout ça maqué. Olivier Roux et Laurent Philippot. Et puis à Dakar, Malan Sonko et Cher Bamba Diop. Lundi dans Priorité Santé, la prise en charge du cancer en Tanzanie. Reportage en Afrique de l'Est signé Igor Strauss. Améliorer la prise en charge, la sensibilisation pour dépister le plus tôt possible les cancers dans cette région africaine. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
En sol majeur.